quartier de vie. Une émission de résonance sonore proposée par Agnès Gontier.
Aujourd'hui, c'est la journée contre les violences faites aux femmes. Agnès m'a permis de vous rencontrer avec résonance sonore dans l'émission Quartier de vie. Violences sexuelles, révoltons-nous. Le 15 septembre 2018, route 40, Argentine. Je me sens libre, heureuse et forte. Forte, c'est puissant. C'est enivrant de ressentir que rien ne m'arrêtera. Que tout ce que je croiserai ne sera qu'un bout de chemin pour m'amener au suivant, sans qu'il soit bon ou mauvais. Je me sens ouverte à toute situation. Je ne me sens pas nécessaire. Personne n'a besoin de moi. Et donc, je peux penser à ce que je veux. C'est un plaisir que je goûte avec le sourire jusqu'aux oreilles. Le cœur ensoleillé et chaud, je me sens vivre. Les gens que nous rencontrons sont tout aussi dépannants que chaleureux. Mais je n'échappe pas à la mise en garde. Tu es une femme et loin de tes habitudes. Donc, en danger. J'écoute les histoires de viols et de meurtres de tout le pays. Chacun exagère sur le fait que je suis vulnérable. Surtout dans les régions qui leur sont inconnues et que les hommes ne savent pas se tenir. Au début, je laisse couler les discussions et les rassure. Puis une ombre revient dans la nuit. Les cauchemars se font de plus en plus fréquents. Même Antoine commence à se demander quelle responsabilité il a pris en voyageant avec une femme. Il y a 2 ans, à quelques jours près, je me faisais violer en Argentine. On m'avait dit de faire attention. On m'avait dit de ne pas m'habiller comme ci ou comme ça. On m'a dit de ne pas partir. Et oui, je suis une femme et j'ai voulu vivre. Je suis une femme et j'ai fait confiance à une personne que je croyais amie. Depuis que ça m'est arrivé, j'ai envie d'en parler, de défaire les préjugés et crier pour donner la possibilité. La possibilité pour tes sœurs, pour tes nièces et pour toutes les autres de vivre en sécurité et en égalité. Mon voyage me paraît flou, loin, terreux et gris. Mais je me souviens avoir eu des moments de plénitude, avoir été heureuse d'être, de voir, de ressentir, même après ce que je considérais comme un incident. Je remettais à plus tard le moment de m'y plonger. Ça me revenait en pleine face, impossible d'éviter. J'ai été blessée. Blessée d'admettre qu'être une femme, c'est difficile. Blessée d'admettre qu'il est difficile de voyager lorsque l'on est femme. Pour moi et les autres, comme Mathilde.
Ce qui m'est arrivé il y a 2 ans, j'ai pris un bus, le Flixbus, pour partir à Berlin pour 3 jours. J'ai rejoigné mon copain de l'époque que j'avais rencontré en voyage et que j'avais pas vu depuis 6 mois, donc j'étais hyper contente. Et c'était un voyage de nuit d'environ 14 heures. J'ai eu la chance d'être toute seule sur les 2 sièges. Du coup, je me suis allongée, blottie comme ça, avec la tête qui donnait un peu sur le couloir. Et j'avais mis des boules quies. Pendant cette nuit-là, il y a un homme avec ses grosses mains qui m'a pris le visage comme ça et qui m'a fait des bisous tout partout comme ça. Ça a duré 4 secondes, je pense. Et en fait, moi, j'entendais pas. Puis j'ai commencé à... quoi, qu'est-ce qui se passe? Et personne m'a répondu. L'homme avait bien sûr disparu. J'ai juste vu sa silhouette. Puis on était 40 dans le bus. En plus, il y a 2 étages. Donc j'ai trouvé ça vraiment horrible. Je suis allée voir mon mec à Berlin. Enfin voilà, il n'y a pas eu de suite. Je suis allée voir mon mec à Berlin. J'ai passé les 3 jours. Je suis revenue en Flixbus. Et il y avait un changement de bus à Francfort. De ce changement de bus, j'arrivais à 5h du mat à Francfort. Et du coup, en descendant du bus, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai 5h. 5h à attendre mon autre bus. Je me suis dit que j'allais chercher un café, me promener. J'ai commencé à marcher. Donc j'avais mon cabas, ma veste en cuir, enfin normal, rien de spécial. Et il y a un monsieur qui était dans la rue, comme ça, je pense d'une 40aine d'années, en costard-cravate, qui m'a arrêté quand je marchais. Il me dit, donc en anglais. Et c'est vous que j'attends, c'est vous sur la photo, l'hôtel, il est là. Je fais, moi je viens pour rien, enfin je suis juste voyageuse, je sais pas, vous m'attendez pas quoi. Il me dit, mais si, c'est vous, je vous reconnais. Venez, soyez pas timide. Je dis, mais non, arrêtez, c'est pas moi. Vous faites erreur et puis je m'en vais. Voilà, après du coup dans ma tête je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça, cette ville? Bon, il était 5h du mat quand même, mais voilà. J'ai continué ma route et je pense 5 minutes après, je tombe sur un mec, je sais pas, qui sortait d'une espèce de bar qui était déjà fermé, hein, et qui m'accoste, salut, qu'est-ce que tu fais? Donc toujours en anglais, hein, dis allez, viens avec moi, je t'emmène chez moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, moi je cherche un café, je veux pas faire ta connaissance, laisse-moi tranquille. Puis il était hyper insistant, alors je trace, je marche plus vite, il me suit, puis je me mets à courir, prendre des ruelles, tout ça. Puis je le vois plus derrière moi, je continue à marcher, 5 minutes après, il arrive en voiture et il marche au pas à côté de moi, il m'avait retrouvé et puis il était dans cette voiture. Allez, viens, monte, je vais t'emmener dans un endroit, ça sera bien. J'ai dit, mais non, laisse-moi tranquille, arrête, sinon j'appelle la police. Et il m'a lâchée. J'ai continué à marcher dans cette ville, je me suis dit, vite, trouve quelque chose. Et je voyais pas, en fait, de café ouvert, donc je suis rentrée dans un hôtel qui faisait café. Je vois un serveur, je lui dis, bon, voilà, j'aimerais... Enfin, j'étais très mal hein, dans ma tête, dans mon corps, dans tout. Je lui demande un café. Il y avait des gens qui étaient dans le saloon. Genre. J'attends, il vient pas. Et finalement, je me retourne et le café était servi au comptoir, en fait, dans un verre à emporter. Alors que tous les gens, ils avaient une tasse normale, quoi. Et je me suis dit, mais je comprends pas. Enfin, on me traite de quoi encore, enfin. Puis du coup, je vais au comptoir pour régler. Je lui dis, c'est un takeaway. Puis il me dit, oui. J'ai OK, donc j'ai réglé, je suis partie. Je trouvais ça hyper chelou et je commençais à me sentir hyper mal. Je me suis dit, mais on me prend pour une pute, en fait, ici. Enfin, tout revenait à ça, quoi. Je suis une pute. Enfin, je me suis dit, allez, faut que j'aille quelque part où il y a du monde. Donc je suis allée dans la gare, une gare de train à Francfort. Et je me suis assise et en face de moi, je vois 6 mecs qui me regardaient comme ça, qui me relookaient. Puis je sais pas, comme s'ils avaient l'air de vouloir me parler. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. J'étais hyper mal, quoi, encore une fois. Du coup, en fait, je suis partie et puis je suis allée me cacher dans un coin. Et j'ai repris le bus, je suis rentrée chez moi. Et la première chose que j'ai fait, c'est... Donc, j'avais des cheveux très longs qui m'arrivaient au milieu du dos, orange pétant, trop beau. Et je les ai coupés d'un coup avec un ciseau de cuisine. Et donc tout, hein, voilà, au niveau des oreilles, j'ai appelé la coiffeuse tout de suite et je lui ai dit, je vais me couper les cheveux courts. Pourquoi? Pour plein de choses. Quand j'étais dans la gare, je me suis dit, en fait, je suis qu'une... Une grosse pute, enfin en tout cas on me prend pour une grosse pute. Les yeux rivés sur moi me mettaient hyper mal. Je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai cherché? Pourquoi on me renvoie tout ça là? Et je me suis dit je veux être moche. Et s'il y a bien quelque chose qui représente la féminité dans ce que je sais moi et dans ce que je vois de la féminité, voilà, c'est la chevelure en l'occurrence qui pour moi me semblait très belle, voilà. Et j'ai tout coupé et ça m'a fait un bien fou. Je me suis trouvée moche pendant longtemps.
Je suis révoltée. Depuis ce viol, chaque personne qui m'a touchée, qui a posé un baiser, un bisou, une main sur ma peau, sur une partie de mon corps, m'a blessée. C'est comme si je perdais un peu de moi à chaque fois, comme si on me mangeait, une fois de plus, comme si on me prenait ma liberté, mon intimité. J'ai voulu comprendre d'où ça venait, cette inégalité des genres dans notre histoire. Ana Gonzalez m'a donné un élément de réponse. Elle a étudié les victimes de viol pour son mémoire en psychologie.
Moi, j'aime bien commencer par expliquer qu'en fait, la femme n'a pas été reconnue comme citoyenne de la République française jusqu'à 1944. C'est là qu'elle obtient le droit de vote pour la première fois. Il faut savoir aussi que la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est présentée à l'Assemblée législative par Olympe de Gouges en 1791, fut refusée. Jusqu'à l'année 44, la femme, juridiquement, dépendait du père ou du mari. Pour que tu vois un petit peu quels sont les gisements historiques du droit français. Si tu ne reconnais pas la femme comme citoyenne, comment veux-tu la reconnaître comme victime ? Si on prend par exemple le cas du viol, il est reconnu comme un crime à l'honneur paternel ou marital. La seule conséquence qu'il y a sur la femme, c'est sa valeur sociale. Dans tous les cas, le droit venait répondre à la fonction de l'État de protection à la famille. Essayer de préserver cet ordre familial au lieu de cette conception plutôt personnaliste, de protection individuelle à la personne qui ne va pas arriver qu'à la fin du XXe siècle. Tu peux bien imaginer qu'il n'est pas intelligible le viol au sein du contrat marital. Ça va être qu'en 1992, que là, le conjoint prend une qualité d'aggravante dans le délit commis. À la suite, c'est en 2006 que les circonstances aggravantes se multiplient. Donc là, on reconnaît les pacsés, les ex, avec d'autres types de délits.
Maintenant, le droit reconnaît la femme comme pouvant être une victime, mais la société semble toujours rendre la femme responsable de ses agressions ou de minimiser la responsabilité de l'agresseur. C'est ce qu'on appelle la culture du viol. Et on a tous grandi avec.
La culture du viol est le fait de dire aux filles et aux femmes de faire attention à ce qu'elles portent.
Comment elles le portent.
Comment elles se comportent.
Où elles vont.
Quand elles y vont.
Avec qui elles doivent marcher.
À qui elles doivent faire confiance.
Ce qu'elles doivent faire.
Où elles peuvent le faire.
Avec qui elles doivent le faire.
Ce qu'elles boivent.
Quelle quantité.
S'il faut ou non regarder dans les yeux.
Si elles sont seules.
Si elles sont avec un groupe d'inconnus.
S'il fait sombre.
Si elles ne connaissent pas bien le quartier.
Si elles transportent quelque chose.
Comment le transporter.
Quelles chaussures elles portent au cas où elles doivent courir.
Quel genre de sac elles portent.
Quels bijoux elles portent.
Quelle heure il est.
Dans quelle rue. Avec combien de gens elles couchent.
Avec quel genre de gens elles couchent.
Qui sont leurs amis.
À qui donner leur numéro.
Si elles sont seules lorsqu'elles se font livrer.
C'est leur dire qu'il faut avoir une porte avec un judas.
Qu'il faut prendre des cours de self-défense.
Qu'il faut toujours être vigilante.
Toujours regarder derrière soi.
Toujours regarder autour de soi.
Ne jamais baisser leur garde.
Que si malgré toutes leurs précautions, elles se font agresser sexuellement.
C'est qu'elles n'ont pas suivi les règles.
Et que c'est de leur faute.
Concrètement, je me suis rendu compte de la difficulté de faire valoir nos droits. J'ai décidé de porter plainte pour protéger les autres femmes face à mon agresseur. Seulement 1% des femmes ayant subi des viols portent plainte, d'après nous toutes. J'ai voulu comprendre quelles étaient leurs hésitations en rencontrant Virginie Sans-Jeunesse, animatrice de l'atelier « Porter plainte, oui ou non » de l'association Fifalia.
Leurs hésitations, c'est le fait qu'à un moment donné, il va falloir reparler plusieurs fois de ce qu'elles ont subi. Au moment du dépôt de plainte lui-même, c'est-à-dire en gendarmerie ou en commissariat, il va falloir expliquer ce pourquoi on vient, raconter en détail ce qu'on a subi. Du détail va naître la qualification pénale, soit l'atteinte, soit l'agression, soit le viol. Et ça a une importance colossale hein, de savoir comment on va classifier les faits, puisqu'ensuite ça va déterminer la juridiction et la peine applicable. Il faut voilà, subir un temps d'attente, raconter plusieurs fois. C'est déjà pas évident de pouvoir se remettre en situation de redire. Il faut subir, entre guillemets, les questions de la part du juge d'instruction pour vérifier la véracité des faits. Et ensuite, les hésitations concernant l'audience en elle-même, puisqu'on se retrouve dans la même pièce que l'agresseur. Dans la salle d'audience, il y a l'agresseur et son avocat. Il faut entendre effectivement la défense de l'agresseur, ce qui n'est pas toujours évident. Reparler de ce qu'on a subi, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu. C'est pas forcément une chose qui est facile, on va pas se mentir, et donc c'est souvent là que réside l'hésitation des personnes qui ont été victimes. Ensuite, il y a effectivement la longueur de la procédure, puisque ce sont des affaires qui souvent sont des affaires graves, et donc on parle de délits et de crimes, et de ce fait, la phase d'instruction peut être très longue, la phase de jugement également. Donc ça rajoute effectivement de la difficulté et ça peut faire hésiter les personnes à déposer plainte et à entamer un recours judiciaire. Et il y a ensuite la dernière difficulté, c'est la difficulté de la publicité, c'est-à-dire que ça va effectivement se savoir. Pour les personnes qui ont été victimes, c'est pas forcément quelque chose d'évident aussi à affronter. D'une part parce que voilà, ça fait à nouveau reparler des faits, parce que des fois l'entourage peut être amené à prononcer des phrases malheureuse, sans pour autant le souhaiter, mais des fois, les propos que l'on peut tenir peuvent faire des dégâts, entre guillemets, sur la personne qui a été victime. Parce que peut-être les personnes vont minimiser par exemple la gravité des faits ou poser des questions qui sont indiscrètes ou délicates, poser un regard, je dirais, apitoyé sur la personne qui a été victime et ça n'aide pas effectivement à se reconstruire. C'est vrai que tout ça fait que les personnes qui ont été victimes peuvent hésiter à enclencher une procédure judiciaire entre, voilà, les phrases malencontreuses, les moments douloureux sur les auditions, la longueur du procès. Et aussi, c'est l'incertitude quant au verdict. Parce que malheureusement, des fois, faute de preuves, la procédure soit s'arrête dès le dépôt de plainte. Par exemple, il n'y a pas assez de preuves et donc on ne peut pas enclencher la procédure judiciaire jusqu'à son terme. Ou alors, par exemple, il y a prescription et l'incertitude quant même jusqu'effectivement au procès. Parfois, la condamnation n'est pas celle que l'on escomptait. Il peut arriver que la personne qui a commis une agression sexuelle soit condamnée à une peine qui ne va pas entièrement, entre guillemets, satisfaire la personne qui a été victime, puisque cela ne représente pas à ses yeux le prix de la douleur qui a été le sien.
Pour porter plainte, il faut raconter, trouver les bons mots, qualifier les faits. De quoi ai-je été victime ?
Les atteintes sexuelles. Si tu as moins de 15 ans, aucune personne de plus de 18 ans n'a le droit d'avoir des comportements sexuels avec toi, même si c'est sans violence, ni menace, ni contrainte, ni surprise, même si tu penses que tu le veux bien. Ce peut être t'embrasser, te toucher sexuellement, te montrer des choses sexuelles, avoir des rapports sexuels avec toi.
Les agressions sexuelles sont définies comme un acte à caractère sexuel sans pénétration, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise. Il peut s'agir par exemple de caresses ou d'attouchements de nature sexuelle.
Le viol est défini par le code pénal comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise ».
Ça me fait mal. Il m'a fallu du temps pour mettre les mots, pour trouver le bon et l'accepter. Je le voyais comme un incident, le médecin comme un viol, la juriste un viol répété. Je suis devenue victime. J'ai eu du mal à l'accepter, car c'était accepter d'avoir subi sans réussir à réagir. Souvent, on me demande pourquoi je n'ai pas réagi, pourquoi je n'ai pas fui. J'aurais aimé. Je suis restée tétanisée. Je sais qu'il aurait fallu dès le début me rebeller, en discuter, l'en empêcher. J'ai essayé, il ne m'a pas écoutée. J'ai construit une carapace, je suis restée tétanisée. Je suis allée rencontrer Hillel Kizer Elbaz, psychologue spécialiste des traumatismes pour l'association CAVAC France à Toulouse, pour comprendre ma réaction et celle des autres.
Il y a quelque chose dans nous qui récapitule tout le système de l'évolution des espèces animales. Nous avons gardé en nous quelque chose qui est de l'ordre de l'instinct et qui va réagir face à un risque quelconque, un risque de mort, un risque gravissime. Il y a trois manières de réagir. Soit la fuite, soit la réaction justement de contre-réaction agressive, soit faire le mort. Chacune de ces réactions intervient dans un moment qui risque d'être fatal. Or, si on écoute les témoignages de beaucoup de femmes, quand on leur pose la question, elles vous disent « mais je n'ai rien fait, je n'ai rien dit parce que j'avais peur de mourir ». C'est-à-dire qu'au-delà du viol, et même certaines femmes disent que ce n'est pas tellement le viol qui a été important, c'est la prise de corps, c'est le risque de mort qu'elles ont eu à affronter. Donc on est devant quelque chose qui est bien enregistré par la justice, même si ce n'est pas acté dans les jugements, qui est de l'ordre de la confrontation à la mort. C'est un crime. Et donc pourquoi n'y a-t-il pas tout simplement ce réflexe héroïque du mec, sortant son glaive et combattant? Tout simplement parce que justement l'organisme, d'une manière animale et instinctive, réagit de la manière la moins risquée possible pour préserver sa vie. Ça, il faut l'entendre. Tant que les juges, la société ne l'entendra pas, on n'évoluera pas à ce niveau-là. Donc oui, elle n'a pas crié. Oui, elle n'a pas fui. Oui, même si elle avait une bombe lacrymogène dans son sac, elle ne s'en est pas servie, tout simplement parce que si elle faisait cela, elle risquait d'être tuée.
Avec Agnès, nous nous sommes aperçus que dans notre entourage, nous en connaissons beaucoup trop des femmes victimes de violences sexuelles. Le chiffre de nous toutes nous étonne pas. 7 femmes sur 10 disent avoir vécu des violences sexuelles en France.
Ben moi, à l'âge de 11 ans et demi, j'ai vécu un viol. Ben, ça s'est passé quand j'étais en vacances dans de la famille, chez des proches. Et du coup, ça s'est passé plusieurs fois. Quand j'en ai parlé à mes amis, bon, j'ai mis beaucoup de temps parce que tu sors pas ça comme ça, quoi. C'est quand même un sujet assez compliqué, quoi. Et puis bon, t'as honte, t'as une frustration personnelle. Et je suis tombée sur deux amis, deux vrais amis, et ils ont vu que j'étais pas bien, donc en discutant pas mal de choses. Et ben du coup, j'ai réussi, on va dire, à mettre des mots et à expliquer un peu pourquoi j'étais triste, pourquoi j'avais mal, pourquoi j'étais pas bien. Et après, quelques années après, donc j'ai pu en parler à mes parents, mais c'était pas évident. Et à cette époque-là, et ben ça se disait pas trop. Il fallait pas trop que ça se sache. Et puis quand moi j'en ai parlé dans ma famille, ça a été tout de suite, faut oublier. Et moi, je m'étais mis en colère. J'ai dit, non, je peux pas oublier, c'est dur. Mais j'ai dit, par contre, ce que je savais, c'est qu'il fallait que j'apprenne peu à peu, un jour peut-être, à vivre avec. Mais même si les personnes, elles t'entendent, qu'elles te disent qu'elles te comprennent, elles te comprennent à leur manière. Elles n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Et elles n'ont pas, on va dire, ce mal que tu as en toi, parce que c'est quand même foudroyant. Moi, j'y ai pris comme quelque chose qui m'avait bouffé de l'intérieur, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est hallucinant. T'es en flamme en toi. Tu sais pas comment tu vas avancer. Est-ce que tu vas surmonter ça un jour? Est-ce que t'as envie de vivre? Est-ce que t'as envie de mourir? Tu le sais pas, ça. Tu dis tout ce que tu veux, c'est fermer les yeux. Et quand tu fermes les yeux, ne plus penser à ça. Quand tu vois que même quand tu essayes de dormir, moi, pendant de nombreuses années, mon sommeil, ça a été très compliqué parce que tu te réveilles en cauchemar, en sueur. Puis en fait, il y a plein d'éléments et tout ce qui t'entoure, quoi. Surtout quand t'es gamine comme moi, t'es à l'école, t'as tes potes qui font ci, tes potes qui font là, et toi, t'as pas envie, t'as pas le même envie qu'eux. Il y a une cassure, en fait, dans ta vie et tu n'arrives pas à avancer. Alors t'essayes d'avancer à ta manière, quoi.
Comme elle, il y a une cassure. Comme elle, on me répète sans cesse. Passe à autre chose. Avance. Oublie ce qu'il s'est passé. Ça va passer. Mais ça ne passe pas. Mon regard est flou, évitant, distant, glissant sur la surface lisse des autres visages. Vide thoracique, boule musculaire. La peur constante, le vide d'envie. La recherche constante d'un plaisir. Et la rencontre de la déception. Le corps a froid, même quand il transpire. Il est fade, toujours frustré de ne pas sentir ce soleil intérieur. Cette énergie de vie. Des pensées de buée, un brouillard de tête, fatigue, recherche, épuisement, effort. À quand le dénouement? Solitude face à moi, un affrontement d'un contre soi-même. La lutte continue, chaque fois plus dure, plus seule, plus perdue. Le vase refissure de nouveau. Il tient, mais pour peu. Où trouver de l'aide? Comment faire pour avancer? Je sais qu'il faut que je m'en occupe, mais comment? Avec quel appui? Hillel m'a donné les grandes étapes que les victimes doivent traverser pour s'en remettre.
La première des choses, c'est l'accueil qui est fait à la parole de la victime. C'est extrêmement important. Face à un impact collectif qui nie sa vérité, la réhabilitation de cette vérité, c'est le premier pas. Alors que ça passe par la justice ou pas, peu importe, mais ça peut passer tout simplement par un accueil qui est fait tout simplement dans l'environnement le plus proche, c'est que cette personne soit considérée dans son état de victime avec ses souffrances et ce qu'elle doit traverser pour retrouver une vie sereine. Ça, c'est extrêmement important. Donc, tout ce qui va permettre la prise de parole, et ce que les Canadiens appellent le dévoilement, est important. Alors ça peut être tout simplement des groupes de parole, ça peut être de l'art-thérapie, tout ce qui va permettre d'exprimer, d'exorciser la souffrance. Premier pas. Le deuxième pas, c'est pour la victime de pouvoir assumer ce remugle distordu qui est conséquence de ce qu'elle a subi. Ça, c'est extrêmement difficile. C'est le besoin de vengeance, le besoin d'assujettir l'autre par une contre-réaction. J'ai subi, donc je voudrais lui faire subir les pires tortures. C'est souvent très mal assumé, ça n'est pas dit, très peu dit, et pourtant c'est nécessaire. C'est quelque chose qui est complètement animal. Et donc, il y a quelque chose à assumer de ce remugle qui vient de la profondeur et qui nous fait ressortir des éléments sombres de la personnalité humaine. Et ça, ça doit pouvoir s'assumer. Toutes les émotions qui sont des séquelles de ces sévices, de ces prédations, doivent pouvoir, dans un deuxième temps, être assumées. Assumer ce que je suis, tel que je suis, dans l'instant. Ça, c'est extrêmement important. Ça, je l'ai appris avec des prisonniers chiliens rescapés des tortures de Pinochet. Troisième temps, il y a actuellement un arsenal de thérapie qui va permettre, disons, là, une véritable cautérisation en profondeur des séquelles. Alors, ça peut être le MDR, ça peut être l'hypnose, ça peut être la sophrologie, ça peut être la méditation. Même, pourquoi pas, parfois c'est nécessaire face à des troubles conséquents. Ça peut être la psychiatrie, à condition qu'elle soit bien pratiquée, d'une manière bienveillante. Parce que la bienveillance, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans ce type d'approche. Il n'y a pas de thérapie unique. Chaque étape de la personne va probablement imposer des méthodes thérapeutiques différenciées. S'en remettre à une seule thérapie, c'est courir un risque. Parce qu'on risque d'enfermer la personne dans un discours qui est celui du thérapeute et pas le sien.
Oula, je suis seulement à la première étape. J'ai essayé de parler à plusieurs personnes pour être soulagée du poids que je portais seule. Maintenant, avec le temps, je m'en mords les doigts. Je n'arrive plus à me sentir bien en leur présence parce que je sais qu'elles le savent. Cela m'a permis tout de même d'en discuter avec une amie. Une amie ayant été prise en photo nue, à son insu, par son oncle. Sa parole n'a pas été mise en doute par sa famille, mais elle n'a pas été reconnue comme victime pour autant.
Ma mère n'a pas douté une seule seconde de mes propos. Elle a voulu être sûre de ce que je disais. Ensuite, elle a appelé immédiatement son frère qui s'était enfui de la maison. Elle m'a mise à l'écart. Lorsqu'il est entré, elle a mis les choses au clair avec lui. Il ne me voyait pas, mais j'entendais. Il a nié. Ma tante a ensuite été mise au courant, puis ma mamie. Tout de suite, c'est devenu un secret familial. Il fallait surtout que personne ne le sache. Le soir même, nous avons mangé tous ensemble, à la même table, en faisant comme si de rien n'était. Ma mère a regretté par la suite de ne pas être partie avec moi. De mon côté, j'étais au bout de la table, pétrifiée. Les mois qui ont suivi, mon cercle proche a été mis au courant. Mais tout le monde faisait comme si de rien n'était, l'invitant même à jouer aux cartes alors que j'étais présente à ce jeu. Il n'y a que mon frère qui, quand il l'a appris, ne lui a jamais adressé la parole depuis. Cela a été compliqué pour moi, puisqu'avant, j'allais souvent voir ma mamie et même dormir chez elle lors des vacances. Et cet oncle, il vivait chez elle. J'ai donc longtemps été incapable d'y retourner. J'avais honte de ne pas vouloir lui dire bonjour lorsque les gens étaient présents et qu'ils ne savaient pas l'histoire. J'avais l'impression de passer pour la méchante.
J'avais besoin de comprendre comment la famille peut réussir à trouver des excuses à l'agresseur et ne pas prendre au sérieux la victime. J'ai demandé à Hillel s'il y avait une explication psychologique.
Il n'y a pas d'explication psychologique au sens psychomoral, si vous voulez. Ça défie même l'entendement au plan moral. Parce que si vous, en tant que personne, vous croisez quelqu'un qui est en risque d'une atteinte quelconque, vous allez tenter de vous porter à son secours. C'est le phénomène d'empathie qui, là aussi, est animal, c'est-à-dire il est partagé par toutes les espèces animales. Dans les familles, c'est autre chose. Nous sommes héritiers du droit romain, puis du droit napoléonien, qui a privilégié donc la structure familiale au détriment de ses enfants et des femmes. Encore une fois, on retrouve la patria potestas, c'est-à-dire la capacité pour le patriarche d'avoir prise sur l'ensemble de sa famille, y compris les esclaves. Et ça, qu'on veuille l'entendre ou pas, c'est une réalité psychosociale, c'est une réalité anthropologique. Alors, bien sûr, vous me direz, mais on ne vit pas encore sous l'égide de la patria potestas. Mais si on y regarde bien, nous sommes toujours un peu archaïques de ce point de vue-là. Pourquoi la famille, parfois, et on a de nombreux cas qui l'attestent, pourquoi la famille, parfois, n'accompagne pas, ne soutient pas la jeune victime ou la moins jeune victime? Tout simplement parce que le prédateur, c'est souvent un proche, quelqu'un de très proche. Donc, il fait partie de la structure familiale, de la tribu, au sens très large du terme. Donc, porter atteinte à la réputation de cet individu, c'est déstructurer complètement l'édifice tribal, la structure, on va dire, sociale de la famille, des relations, etc. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas admis. Et donc, la victime va porter le poids d'une suspicion, de provocation. On va chercher éventuellement dans son histoire des éléments qui pourraient révéler que c'est une menteuse, une affabulatrice, etc. Oui, la victime va se retrouver en butte avec l'absence de soutien de la famille. C'est relativement fréquent, mais ce n'est pas universel, heureusement.
Maintenant, je veux avancer, me reconstruire, croire en la suite. Certaines ont réussi. Elles vivent avec. Le chemin est long, mais elles s'en sortent et se sentent heureuses. Chacune fait son chemin. Elle a fait une cassure et trouve son équilibre pas à pas.
Moi, je me suis isolée moi-même. Parce que bon, mes parents, quand ils ont su ça, ils ont voulu que j'aille voir psychiatre, psychologue, enfin toute la panoplie idéale, quoi. Donc, j'y suis allée. C'est vrai que bon, ça m'a fait un petit peu de bien. Mais je peux pas dire tant que ça. Parce que pour moi, c'était pas de ça que j'avais besoin. C'était vraiment de discuter du sujet, mais... Vraiment, je pense, de tout poser sur la table et de crier, en fait, d'exprimer le mal-être que t'as. C'est ça, en fait. Ce qui m'a le plus servi, c'est le fait d'avoir fait une cassure envers ma famille et de me retrouver seule, certes, avec quelques vrais amis, d'essayer de prendre de la force en moi, tu vois, d'essayer de se dire, bon, allez, tu veux faire quoi, là? Tu continues à te détruire? Malgré tout, dans tout ça, j'ai quand même tenté de me suicider plusieurs fois. Donc, parce que tout en découlait. C'est tout un ensemble. Moi, je bossais mal à l'école parce que j'avais pas envie d'apprendre les cours. Puis, t'étais toujours sur la défensive et à tester pour, entre guillemets, te faire comprendre, mais à ta manière. Et les gens qui savent pas, ils peuvent pas t'apporter ça, justement. Et donc, tu continues. Et moi, je sais que, ouais, niveau cours, j'ai fait la con, oui, ça, c'est sûr. Mais... après, ça a été un cheminement. Et oui, j'ai coupé court donc avec mes parents. Ça m'a permis de structurer, d'avancer petit pas par petit pas. Et puis ça, faut se le dire, voilà, c'est que t'avances vraiment... Enfin, moi, j'ai avancé petit pas par petit pas. Et des fois, tu fais 2-3 pas et t'as retombé 2-5. Mais faut pas se décourager. Et ça, c'est compliqué, ça. Bon, j'ai pas oublié. Parce que comme j'ai dit, on est obligé de vivre avec. Par contre, j'ai appris à vivre. Je vis différemment, c'est vrai. C'est-à-dire que je vais prendre beaucoup de précautions. Si j'ai à sortir, admettons, un soir, j'en sais rien, pour aller faire un tour en ville, admettons, je ne vais pas passer dans une ruelle qui s'est noire. Ça, c'est clair. Je passerai là où il y a de la lumière. Bon, oui, je prends d'énormes précautions. Mais après, c'est un cheminement maintenant que j'ai mis en place. Et du coup, c'est une mini-carapace qui me protège tous les jours. Et oui, maintenant, j'arrive à vivre... Et en plus de ma famille qui maintenant donc j'ai retrouvé et puis on parle de tout sauf de ça maintenant, le sujet on va dire est clos. Je veux plus en parler avec eux, c'est mon choix à moi. Et puis c'est pas plus mal pour ça de tout le monde et puis je les comprends moi mes parents qui ont été quand même au dépourvu de tout ça. Donc voilà, c'est pas plus mal d'essayer d'avancer et de finir les quelques années qu'on peut avoir d'heureux, les vivre à fond. Et puis, il y a autre chose qui m'a aidée, en plus de mes potes et de ma famille, c'est un livre. C'est tout bête, mais c'est un livre, je suis tombée là-dessus. C'est un philosophe qui enseigne la méditation en France. Il a écrit un livre, ça s'appelle « Foutez-vous la paix et commencez à vivre ». C'est de Fabrice Midal. Mais alors, franchement, c'est un livre que j'ai trouvé qui, pour moi, est libérateur et déculpabilisant. Et ça aussi, ça m'a vachement aidé à faire ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, je suis fière, je suis une femme. J'approche des 40 ans, je vis, je bosse. Mais c'est vrai que oui, il y a juste une barrière, une vraie, c'est que je ne suis pas en couple. Parce que je me sens pas... cette marche-là, je ne peux pas la franchir, hein, même encore, même de nombreuses années. Peut-être que certaines personnes trouvent ça dommage, mais moi, c'est mon choix. Et maintenant, j'assume mes choix et j'y vais vraiment à fond. Et pour moi, pour croquer la vie à pleines dents, c'est vraiment d'avoir ma petite maison, mon boulot, mon chien, mes amis, et puis sourire à la vie. Parce que même si c'est grave ce que j'ai vécu, ça a été dur. Mais pour avancer, je me dis aussi qu'il y a quand même beaucoup plus grave autour de moi. Il y a des situations d'actualité, soit actuelles là, soit il y a quelques années, qui m'ont aidée aussi à avancer, de me dire « ouais, c'est super grave, mais tu peux avancer avec ça ». Et c'est comme ça que oui, au jour d'aujourd'hui, je vis, je profite de la vie, et oui, je suis heureuse. Après, peut-être qu'un jour... Je suis pas arrêtée sur ce fait de ne pas être en couple. Mais j'estime que même à mes 40 ans bientôt, je suis pas encore prête. Parce que c'est ce que je vous disais, c'est le cheminement qu'on fait, il est long. Donc, il y en a qui mettent moins de temps. Mais moi, d'avancer dans mes étapes, pour brûler aucune étape et pour être sûre que mes fondations sont bien faites et ma maison... entre guillemets, se construit bien, ma maison de ma vie, le chemin de ma vie. Parce que je ne voudrais pas un jour retomber, parce que c'est trop dur de remonter.
La personne se comprend. Il, elle, parle de la dernière phase pour s'en remettre. C'est la phase d'indépendance.
C'est-à-dire qu'elle assume ce qu'elle est, elle se comprend, et donc elle est capable d'autonomie. Elle peut continuer à travailler avec des médiateurs, psy ou autres... Mais elle sait un peu mieux gérer sa vie et surtout son environnement proche, c'est-à-dire ses compagnons de vie, ses enfants, d'une manière beaucoup plus sereine et moins sous l'emprise soit des souvenirs, soit de mouvements d'humeur qui sont souvent assez néfastes pour l'organisation d'une vie domestique. Mais ce à quoi il ne faut pas s'attendre, c'est qu'il y ait une disparition complète de ces symptômes qui étaient souvent mal perçus, c'est-à-dire les dissociations, les flashbacks, des problèmes de mémoire. Cela vont durer parce que chaque épisode de la vie, tout au long de la vie, va mettre la personne en présence avec d'autres éléments, on va dire, secouants, d'autres éléments traumatiques qui sont ceux de la vie, hein, tout simplement. Et donc, cela va de nouveau alimenter quelque chose de cette post-traumatique profonde et faire ressurgir des éléments donc, de la mémoire traumatique. Et c'est normal, c'est-à-dire c'est véritablement que le territoire de vie de la personne s'élargit et qu'en même temps, eh bien, la poche traumatique se vide de ses contenus. Et ça, c'est normal. Ça veut dire que la personne est en phase, on va dire, de création et non pas d'installation dans une zone de confort.
Mathilde, elle a créé un nouveau rapport aux hommes. Aujourd'hui, elle se laisse repousser les cheveux.
Je suis hyper affirmée dans la femme que je suis, mais j'ai l'impression que c'est cette coupe qui m'a... aider à me retrouver en fait, enfin, à en fait dénouer, à brûler tout mon rapport à l'homme que j'avais, qui était de l'ordre de la séduction beaucoup. J'ai tout brûlé et je renais dans quelque chose d'hyper sain. Et puis aujourd'hui en plus je suis en couple, donc c'est aussi différent. Et que du coup moi je me sens belle à travers ses yeux, mais aussi maintenant... à travers les miens, je me reconquéris un peu avec ça, ouais. Ça va te paraître un peu bizarre, mais je suis contente d'être passée par là, en fait. Pour moi, mon intégrité de femme. Et je suis tellement sûre maintenant de ce que je suis, de ce que je veux. Et en fait, les regards que je veux plus, mais je les vois même plus, je pense. Et ça, c'est hyper chouette d'en être arrivée là. Et d'avoir complètement changé ce rapport aux hommes. Après, c'est clair que c'est traumatisant, mais je le ressens plus du tout de cette façon-là. Alors je dirais que c'est une expérience difficile, mais je trouve que je m'en sors hyper bien. C'est pas affreux. Voilà. Enfin, en tout cas, j'ai voulu rebondir tout de suite avec cette chevelure. J'ai pu en parler parce que ça se voyait physiquement. Aux amis qui m'entourent, Et voilà, maintenant ça a fait son chemin. Je suis hyper contente de me laisser ses cheveux repousser. Et là, c'est ma petite vengeance qui réapparaît, quoi.
Mon chemin est encore long. Pour soigner mes blessures, j'ai besoin de reconstruire le monde, de participer à un changement, de trouver des solutions avec d'autres.
Comment diminuer les violences sexuelles, je dirais. Alors c'est un vaste phénomène, hein, puisque en réalité, les statistiques que l'on a ne sont que la partie visible de l'iceberg. Mais le plus important, effectivement, ça va passer, selon moi, par l'information, la formation, la prévention par l'éducation à la sexualité, notamment l'éducation contre les violences sexuelles. Ça paraît effectivement primordial à mener. L'information de la population générale et des professionnels sur ce qui est de l'ordre de l'atteinte sexuelle, de l'agression sexuelle, du viol. Et ensuite, accompagner au mieux les personnes qui ont été victimes. Et il faut, je pense, former le maximum de gens, de professionnels notamment, à cette problématique des violences sexuelles, puisqu'il faut pouvoir casser les clichés dont sont victimes les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Il faut pouvoir casser également les clichés derrière lesquels s'abritent les agresseurs pour perpétuer les faits dont ils sont les auteurs.
Dans l'Hexagone, et on peut étendre aux frontières plus largement, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne, en Allemagne. L'Europe a en gros 25 à 30 ans de retard dans ce domaine-là. Lors de mes séjours au Canada, quand justement je m'inspirais des méthodologies de collègues canadiens, déjà à l'époque, ils me disaient « mais en France, en Europe, vous avez 25 ans de retard, ça a 10 ans d'âge déjà, donc on n'a pas avancé ». On n'a pas avancé parce que l'Hexagone reste imprégné d'une très grande difficulté à former des psychologues d'une manière beaucoup plus globale, c'est-à-dire en criminologie, en anthropologie, parce qu'il faut avoir d'autres exemples de la parenté. Un couple, une famille, ce n'est pas un papa, une maman, des enfants. Ça, c'est une aberration qui est héritée de la trilogie judéo-islamo-chrétienne. La famille éclatée, la famille monoparentale, ce sont des vérités qui peuvent exister, qui sont psychologiquement valables et fondées. Donc, tant qu'on n'aura pas d'autres modèles de la parenté, déjà au niveau psychologique, on n'avancera pas beaucoup. Et c'est ce qui fait qu'effectivement, un enfant a besoin d'un papa et d'une maman, donc on remet l'enfant à la garde du père, qui peut être un mari violent, qui peut être un père incestueux, mais le juge considère que la consolidation du lien de l'enfant avec son père est nécessaire. Et ça, c'est une catastrophe. Tant qu'on n'aura pas avancé sur ce plan, tant qu'on n'aura pas formé des juristes aux mêmes éléments, on ne pourra pas avancer. Former des gendarmes à l'accueil des victimes, ok, oui, pourquoi pas. Sauf que c'est sur le volontariat que ça marche. D'autre part, si on croit que les gendarmes, quelque de bonne foi qu'ils soient, accepteront de faire ce travail d'accueil bienveillant qui dure un temps infini alors qu'ils ont beaucoup d'autres choses à faire, c'est un leurre, c'est une aberration, c'est une tromperie. Ce qu'il faut, c'est faire justement ce qui existe au Canada, c'est des cellules au sein desquelles travaillent des juristes, des psychologues, des éducateurs et des policiers. Tant qu'il n'y aura pas ça, on n'avancera pas.
Une sensibilité plus accrue, une formation à ce type de problématique de la part de tous les acteurs. Mais ça, c'est un petit peu, je sais pas jusqu'à quel point ça peut être utopique. Des démarches de protection beaucoup plus importantes. Ça, c'est essentiel. La chose la plus urgente, mais parce qu'il y a des meurtres, le système de protection qui aille beaucoup plus vite. Et là, je peux te parler du cas espagnol. Il y a des tribunaux spécialisés pour traiter la violence de genre, donc cette violence conjugale. En fait, c'est des tribunaux spécialisés tout simplement pour que le procès aille plus vite. Le jugement, il va beaucoup, beaucoup plus vite que dans d'autres affaires, tout simplement parce que si la personne est reconnue comme victime, elle rentre dans un protocole, on va dire, de protection. Ils vont permettre à la femme de la mettre rapidement dans un centre d'hébergement. Il va y avoir une protection policière et l'agresseur va être bien contrôlé par la police rapidement. Ce qui fait une différence, en fait, entre l'Espagne et la France au niveau des féminicides. On est autour, bon, ça a augmenté les chiffres, mais toujours on est autour de 60-70 féminicides en Espagne. En France, c'est le double. Et ce n'est pas le double de population. Donc, l'innovation au niveau des démarches est essentielle et mise en place à niveau national. Après, par rapport aux questions de viol, de consentement, il y a de la matière à faire.
C'était Quartier de vie. Violence sexuelle, révoltons-nous. Une émission enregistrée, réalisée par Agnès et moi pour la journée contre les violences faites aux femmes. Je remercie Agnès pour m'avoir donné la possibilité de crier ma colère, me permettre de faire un pas dans ma reconstruction, me permettre aussi d'agir pour créer de l'espoir. Je remercie également ces trois femmes qui ont bien voulu nous partager leur histoire.
Quartier de vie, une émission de Résonance Sonore. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.